Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Mais au fait, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, William Friedkin ?
Né en 35 à Chicago, Billy Friedkin, fils d'émigrants ukrainiens, rêve de faire du cinéma après avoir vu Citizen Kane. Mais c'est à la télé qu'il essuie les plâtres, tour à tour balayeur, figurant, coursier, puis réalisateur de direct. En 65, avec le documentaire The People vs Paul Crump, William sauve le condamné à mort de la chaise électrique. Il apprendra par la suite de la bouche du prisonnier qu'il était en fait bel et bien l'assassin. 2 ans plus tard, il se lance dans le long métrage et expérimente à tout va.
Pour provoquer les réactions de mes acteurs, je partais parfois du plateau et je tirais des coups de feu à blanc. Ça faisait un bruit énorme qui les faisait se retourner tout d'un coup.
William Friedkin, ce sont tout d'abord des débuts dans le documentaire télé au début des années 60, puis quelques années plus tard, les premiers longs-métrages, une comédie avec Sonny et Cher, une adaptation d'Harold Pinter, ou encore Les garçons de la bande, d'après une pièce culte de Marthe Crowley. William Friedkin, c'est ensuite...
En 71, avec cette scène tournée sans autorisation dans les rues de Brooklyn et dans laquelle Gene Hackman prend en chasse le métro aérien, William Friedkin réalise la course-poursuite la plus incroyable de l'histoire du cinéma. Compétition aux Oscars face à Orange Mécanique de Stanley Kubrick, French Connection décroche 5 statuettes.
C'est 2 ans plus tard, un nouveau triomphe avec L'Exorciste, un hommage à Magritte, un corps en lévitation et des travelling sur les notes au piano de Michael Field.
The sour is mine.
It was based on an actual story.
C'est tiré d'une histoire vraie. Quand j'ai lu le roman, mais aussi l'historique des faits sur ce qui s'est passé dans cette affaire d'exorcisme, j'ai été stupéfait. J'ai réalisé que ce n'était pas un film d'horreur, mais que j'avais affaire à des faits réels complètement inexplicables. C'est pour ça que même aujourd'hui, les gens qui voient le film pour la première fois, ou qui ne l'ont pas vu depuis longtemps et qui le revoient, sont bouleversés.
Pour L'Exorciste, William Friedkin adapte le best-seller de William Blatty, paru en 71 et vendu à 13 millions d'exemplaires. L'écrivain s'inspire d'un fait divers de 1949, l'histoire d'un ado américain pris de délire et dont la mère appelle à l'aide le prêtre Walter Halloran. Celui-ci va noter dans son journal intime les séances d'exorcisme pratiquées sur l'adolescent.
Il a fallu trouver un moyen d'inventer un plateau glacial, et ça a pris un temps fou. La nuit d'avant, on a filmé avec une unité de climatisation complète au-dessus de nos têtes. Assez pour climatiser l'étage où on se trouve en ce moment, rue de Rivoli. Le lendemain matin, il faisait moins 5 et on pouvait filmer la buée qui sortait des bouches.
And from the clutches of the noonday devil, this human being made in your image and likeness.
But then after the movie lights.
Le problème, c'est qu'une fois les lumières du plateau allumées, on avait peut-être une heure devant nous avant que ça se réchauffe. Après ça, on devait éteindre les caméras, les lumières et relancer la climatisation.
and turn the air conditioning up again.
I cast you out, unclean spirit!
Shut up your ass!
In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who plunged heights of heaven to the depths of hell!
Fuck him!
Be gone!
Fuck him, Garrus!
From this creature of God!
William Friedkin, c'est avec la fin des années 70, le début des problèmes, avec une longue série d'échecs publics, à commencer par Le Convoi de la Peur, Francisco Rabal, Amidou, Bruno Kremer, Roy Scheider, et une séquence d'anthologie sur un pont et sous la pluie.
Certains de mes films ont mieux marché que d'autres. Il y a eu des échecs et il y a eu des succès. Mais je pense toujours à cette phrase de Samuel Beckett. Échoue encore. Échoue mieux la prochaine fois. La plupart du temps, notre travail est un échec. On échoue à réaliser ce à quoi on aspire vraiment. Le mieux que je puisse faire, c'est d'essayer de me planter mieux la prochaine fois.
William Friedkin, c'est ensuite, au tout début des années 80, le controversé Cruising qui plonge Al Pacino dans les backrooms d'un club gay, un Al Pacino qui reniera d'ailleurs le film à sa sortie. William Friedkin, c'est au milieu des années 80, Police Fédérale Los Angeles, un nouvel échec pour un film devenu ensuite culte, avec l'expert William Peterson, tout jeune, mais aussi l'une des premières apparitions de John Turturro, William Dafoe en bad guy, et puis, William Friedkin oblige, une nouvelle très grande poursuite en voiture.
We're going this way.
William Friedkin, c'est ensuite à la fin des années 80, le grand écart. D'un côté, Le sang du châtiment, l'un des films les plus dérangeants de la décennie. Et de l'autre, le clip Somewhere pour Barbara Streisand. William Friedkin, c'est ensuite la traversée du désert des années 90, avec un film d'horreur oubliable, un film sur le basket, lui aussi oubliable, et puis une semi-résurrection. Le polar érotique Jade, avec l'expert David Caruso, et puis William Friedkin oblige, une nouvelle grande poursuite en voiture. William Friedkin, ce sont ensuite des années 2000 traversées dans un certain anonymat, avec pourtant un bon film de guerre sous-estimé, un survival dans les montagnes un peu surestimé, et puis surtout Bug, avec ses personnages paranoïaques, persuadés qu'ils sont rongés de l'intérieur par des insectes, métaphore à peine voilée de l'Amérique des années Bush. William Friedkin, c'est enfin aujourd'hui Killer Joe, qui vient nous rappeler que Friedkin réalise encore à 75 ans des films élégants, ambitieux et dérangeants. Et toujours cette question, William Friedkin ne serait-il pas finalement l'un des plus grands auteurs du cinéma américain contemporain ? Smells heavenly. Who would like to say grace?
La plupart des grands studios aujourd'hui à Hollywood sont très frileux. Tous les films, ou en tout cas une grande part d'entre eux, sont des comédies bidons, ou sont inspirés de bandes dessinées ou de jeux vidéo. Voilà ce que font les grands studios d'Hollywood aujourd'hui. Je ne veux pas regarder ça et encore moins en faire. C'est pas pour moi, d'autres s'en chargent. Je n'ai trouvé que 16 histoires en 45 ans dont je voulais faire un film. Je ne veux pas me répéter et refaire le même film encore et encore.
la carrière de Friedkin, elle va crescendo. Hein, il va faire des petits films, il va adapter Pinter, Les garçons de la bande, L'anniversaire. Il va être un des premiers à traiter d'homosexualité au cinéma. Et puis, 71, il est appelé par les studios et il va faire son premier film pour les studios qui va être donc French Connection. Succès absolument colossal. L'Oscar, 2 ans plus tard, L'Exorciste, 3e recette de l'histoire de tous les temps dans le cinéma américain. Donc ce type-là, en 73, il est sur le toit du monde, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que, et c'est intéressant parce qu'on se dit que Sorcerer, le film qui va venir après, vient et le produit de cet état d'esprit-là. Hein, lorsque William Friedkin vient de sortir L'Exorciste, il fait partie de ces 3-4 cinéastes qui peuvent tout demander aux studios. Les studios n'attendent qu'une seule chose, après l'homme qui a eu les Oscars et le box-office, qui est la totale, il peut tout faire. À cette époque-là, Friedkin est donc le Wonder Boy d'Hollywood, hein, un peu comme Coppola, avec lequel il se sent d'ailleurs assez en concurrence. Et c'est pas inintéressant que Coppola partit aux Philippines dans son tournage monstre herzoguien qu'est Apocalypse Now. William Friedkin, lui, décide de partir aussi, hein, dans une contrée pas possible.
Sort of place nobody wants to go looking.
Il a donc son scénariste, il a d'autres techniciens qui l'embauchent. Et dernière chose, concernant les acteurs. Parce qu'il faut savoir, mais je pense que certains d'entre vous le savent déjà, qu'à l'origine, les 4 personnages, les 4 acteurs principaux qui jouent dans le film, n'étaient pas du tout les 4 qu'avait prévu William Friedkin. William Friedkin voulait, comme premier acteur, Steve McQueen. Et c'est en parlant du projet à Steve McQueen, en disant « j'ai envie de réaliser ce film-là d'après Sœur de la peur », Steve McQueen dit « pas de problème, d'accord ». Et lorsque Friedkin écrit, il écrit le script avec Steve McQueen en tête. C'est-à-dire que le rôle qui finalement sera récupéré par Roy Scheider a été écrit pour Steve McQueen. Et puis, il pensait faire un casting all-star, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire avec 4 stars internationales, et pas uniquement américaines ou européennes, qui étaient donc Steve McQueen, Marcello Mastroianni, Lino Ventura et Francisco Arrabal. Et Amidou. C'était, voilà, c'était en gros le casting dont il rêvait. Le problème, c'est qu'au moment où il finit le script, il va voir McQueen en disant « voilà, le script est écrit, on part tous en République dominicaine hein, ». Et puis, ce n'est pas 4, 5, 6 semaines de tournage. Il y a une séquence de 12 minutes dans le film qui a nécessité 3 mois de tournage. On est parti pour 1 an. Et McQueen, à l'époque, et souvent c'est ça l'histoire du cinéma, pour des raisons intimes et personnelles, vient de se marier avec Ali McGraw. Vous connaissez peut-être l'actrice Ali McGraw. Et il est amoureux, il est aussi un peu jaloux, voire un tantinet paranoïaque. Et il n'a pas envie de la laisser loin de lui pendant longtemps. Voilà, c'est ça la raison principale. Et il dit à Friedkin, à ce moment-là, pourquoi tu vas t'ennuyer à aller tourner en République dominicaine ? On a tout ce qu'il faut aux États-Unis, ou voir à la frontière du Mexique, tu trouveras tout ce que tu veux comme décor. Et Friedkin, à l'époque, qui le dit lui-même, hein, à la fois arrogant, aveugle, dit non, mais tu dis que tu as adoré mon script c'est République dominicaine, c'est là que ça va se passer. Alors, Steve McQueen fait quand même un effort en lui disant, bon, alors peut-être tous partir en République dominicaine, mais je ne peux pas m'éloigner d'Ali McGraw, est-ce que tu ne pourrais pas lui trouver un rôle féminin, lui écrire un rôle féminin ? Et là, Friedkin lui dit, tu as adoré le script, comment tu veux massacrer ma vision, etc., etc. Hors de question qu'on écrive un rôle féminin. D'accord ? Et dernière chose que lui demande McQueen, puisqu'il a refusé les 2 précédentes, est-ce que tu ne pourrais pas lui trouver un poste, notamment de productrice exécutive ? Et Friedkin refuse, hein, pour la même raison, non, l'architecture est prévue, etc. Et donc McQueen se désiste. Alors, pendant longtemps, ça fera partie de la légende de Sorcerer. Qu'est-ce qui serait passé si McQueen avait dit oui ? La question, elle est là. Puisque Matt Quinn se retirant, Lino Ventura commence à se dire, oh là là, ça commence à sentir le sapin, cette histoire. Donc, Lino Ventura s'en va. Mastroianni, lui, s'en va aussi pour des raisons intimes, puisqu'à l'époque, il est séparé de Catherine Deneuve, et Catherine Deneuve ne veut absolument pas que Mastroianni parte avec sa fille à l'étranger, en l'occurrence Chiara. Donc, il choisit entre sa fille et le film, le choix est vite fait. Hein. Moralité, il va être obligé de choisir d'autres acteurs, puisque ceux qu'il avait prévus à l'origine disparaissent. Dire ce que Friedkin n'a cessé de dire depuis 20-25 ans et qui pour moi est toujours une question, c'est que lui se demande évidemment les raisons de l'échec de Sorcerer. Il y en a sans doute plusieurs et on y reviendra tout à l'heure. Mais évidemment, le cas McQueen est important parce que le tournage a lieu en 76-77, McQueen meurt à 50 ans en 80 et donc il reste convaincu que si McQueen avait dit oui, autre casting, autre éclairage, le film aurait été peut-être reçu différemment. Et Friedkin a depuis cette phrase qui est devenue quasiment un slogan chez lui. Il dit « À l'époque, j'étais trop idiot, trop arrogant, trop impu de moi-même pour me rendre compte que un gros plan de Steve McQueen valait tous les paysages du monde. Voilà. » J'aime assez ça parce que à la fois c'est juste et en même temps, je suis pas sûr que ce soit vrai. Que l'échec du film, il est passionnant, on y reviendra. Il y a sans doute plusieurs raisons. La première chose, c'est que le film sort en 77. Et quand on parle du Nouvel Hollywood, pour ceux qui ont quelques mémoires de ce qu'on se disait il y a deux ans, le Nouvel Hollywood en 77, le cinéma américain en 77 et le public américain n'est plus du tout le même que celui de 72-73. Il a considérablement changé. Et c'est Friedkin qui est dans sa tour d'ivoire, hein, enfant capricieux, artiste capricieux, ne le voit pas et il va recevoir comme un boomerang hein, le retour du réel de l'industrie du divertissement américain à fin des années 70. Il sort, rappelons-le quand même, une semaine après Star Wars. Bon. Il y en avait un qui devait perdre, évidemment. Hein. Même si quand vous entendez parler Friedkin aujourd'hui, lui considère vraiment Il fait partie de ces cinéastes qui ont la dent la plus dure, et même s'il a continué à tourner, et beaucoup plus que d'autres d'ailleurs, il a plutôt été bien loti d'ailleurs par Hollywood depuis le début des années 80. Friedkin, il a fait Tully Van Dyne en 88, jusqu'au récent Killer Joe, il est revenu avec Bug, Traqué, il a continué à tourner, William Friedkin, contrairement à d'autres qui ont eu beaucoup plus de mal, mais c'est sans doute celui qui a la dent la plus dure sur la fin du nouvel Hollywood et l'arrivée du cinéma d'après. Hein, de justement le cinéma post-Star Wars, etc. C'est même quand on l'entend aujourd'hui il s'en prend aux super-héros, il dit ça rend complètement débile les gens, c'est une catastrophe pour le cinéma, et pas qu'hollywoodien, international d'ailleurs, les films de super-héros. Bon. Parce que Friedkin avait une très belle phrase à l'époque de la sortie de Star Wars, où il comprend, parce qu'évidemment, à moins d'être idiot, on comprend que si les gens vont voir Star Wars, c'est mort pour d'autres, et que la donne est en train de changer. Il avait dit, le problème, c'est que dans les années 70, et notamment avec des personnages comme ceux de Sorcerer, on était dans des personnages qui étaient mélangés. Hein, bien, mal, on était dans une espèce de zone assez imprécise. En tout cas, l'enjeu n'était pas d'avoir des héros, c'était même plutôt des anti-héros d'ailleurs. C'est là-dessus que s'est construit l'essentiel du cinéma américain de cette période-là. Et Friedkin dit, le problème c'est que quand Star Wars est arrivé, et que le merchandising est arrivé, et que les gens sont allés voir le film en masse, et ont voulu aller acheter des figurines de Luke Skywalker, ces trucs-là, etc. Il dit, d'un seul coup, on nous a demandé, non plus de faire des personnages de cinéma, mais de faire des figurines animées. Et je pense que c'est totalement juste, hein, c'est-à-dire que le film Sorcerer, c'est aussi un film de personnages qui sort à un moment où l'ère de la figurine est en train d'arriver au cinéma, voilà, où il faut avoir des poupées. Alors est-ce qu'on imagine une poupée Roy Scheider ? À quoi ça ressemblerait une poupée Roy Scheider ? Non mais ça m'intéresse. Je veux dire, à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est le moment où il est le petit macro le petit escroc du début ? Est-ce que c'est le moment où il ressemble à Lazare ? Est-ce que le moment où il est à la fin un peu dépité ? Est-ce que c'est le moment où il tape avec sa machette ? C'est quoi le bon Roy Scheider ? Hein, c'est que cette idée des personnages qui sont multiples, comme Popeye Doyle. Est-ce que c'est le moment où il est flic, au moment où il pète les plombs, le moment où il est aussi violent que les criminels ? Cette espèce de complexité du personnage évidemment ne peut pas devenir une figurine. Et Friedkin en a toujours énormément voulu. En fait, il en voulait à la fois au film qui se faisait et aussi, sans doute, au cinéaste américain de Nouvelle Hollywood, à partir du 75-76, de ne pas avoir su prendre le pouls de ça, hein, d'avoir continué à faire leurs films dans leur coin, tous hors sol, avec le succès qu'ils obtenaient, ils avaient perdu le contact avec la réalité, et une nouvelle génération, pendant ce temps-là, a tranquillement préparé le terrain et a pris le pouvoir. Et après, pour eux, c'était beaucoup trop tard. Hein, je pense qu'il Friedkin s'en veut aussi, hein, de ne pas avoir été plus concerné par l'état du public et d'avoir su le diriger de façon plus subtile que ce que c'est devenu dans les années 80. Think it's done. And it looks like friends. And the winds run like Like's the end of the world, you say. And it's so cold. It's like a cold fuel of death. Then you smell. Personne ne fait des films comme ça. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de CGI, on est à l'autre bout du monde. Les acteurs ont vraiment souffert, ils ont vraiment transpiré, il y a vraiment des accidents, j'en parlerai après, la malaria. Hein, le cinéma est devenu un truc totalement hygiéniste aujourd'hui, où le pire c'est que l'écran bleu déteigne sur vous, vous voyez.
Sometimes you make me feel like I'm living at the edge of the world. Like I'm living at the edge of the world. It's just the way I smile. You said